15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, nous vous recevons dans ce studio en direct pour parler de vos petits et gros bobos. Mais surtout, on essaye de vous faire du bien. Il est à mes côtés du lundi au vendredi, le docteur Dimi Mohamed. Bonjour Dimi.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la gastro-entérite. En ce moment, une épidémie touche toute la France, dans toutes les régions, beaucoup de malades. Alors on a décidé de faire un point sur les raisons de cette maladie infectieuse qui revient chaque hiver. Pourquoi cette maladie se propage Pâche-t-elle toujours aussi vite? Comment la traiter efficacement? Bien sûr, on fera le point avec notre invité, le docteur Henri Partouche. Il est professeur de médecine générale. Le docteur Dimi Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, dans sa chronique, il sera question des tampons et des cups que les femmes utilisent pendant leurs règles. Les autorités sanitaires viennent de demander aux industriels une information plus claire sur le risque de choc toxique qu'ils peuvent entraîner. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous allons nous intéresser aux cosmétiques divers. Sticks pour les lèvres, crèmes pour les mains. Ces produits sont nombreux, mais que contiennent-ils vraiment? On va en parler. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de l'orgasme féminin, clitoridien ou vaginal. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Catherine va nous expliquer tout ça.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle d'André.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed et bonjour à toute l'équipe. J'avais une question à propos de la chirurgie, parce qu'on en entend beaucoup parler pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs. Et j'aimerais une fois pour toutes comprendre la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique. J'espère que je l'ai bien prononcé. Pouvez-vous me l'expliquer s'il vous plaît? Et un grand merci, à bientôt.
Bon Dimi, alors c'est vrai que ces dernières années, les injections, donc les produits de comblement pour les rides ou pour booster un peu la fermeté de la peau, on en parle souvent dans son rendez-vous, ont quasi remplacé les pratiques chirurgicales comme le lifting. Bon, des liftings, il y en a toujours quand même, mais sur le haut du visage, finalement, tous les experts qu'on reçoit régulièrement sur le plateau nous le disent, avec les injections, eh bien on en fait de moins en moins. Alors pour répondre à la question que nous a posée André, à savoir quelle est la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique, je ne vous ai pas demandé à vous Dimi, je me suis dit vous n'étiez pas le spécialiste, on a préféré poser la question donc à Jean-Marc. Il est médecin esthétique, on l'écoute.
Alors, en fait, sur un visage, on a deux types de rides. Vous avez des rides d'expression, c'est des rides qui sont liées à la contraction musculaire d'une partie du visage. Étant donné qu'on a une contraction musculaire, on va utiliser un produit qui va être un décontractant musculaire et c'est ce qu'on appelle la toxine botulique ou plus communément le Botox. L'acide hyaluronique, c'est pour les parties du visage pour lesquelles vous avez une petite décharnation, une perte de substance. Et dans ces cas-là, ça n'a rien à voir avec une contraction. On va devoir remplir la ride avec de l'acide hyaluronique qui est naturellement présent dans notre peau, mais qui, avec les années, a tendance à disparaître. Et donc, du coup, l'acide hyaluronique va s'apparenter à de la pâte à modeler. On va le poser, on va l'injecter au cœur de la ride.
Bon, voilà, comme ça, au moins, on a compris, c'est clair, la différence, en fait, acide hyaluronique et Botox n'ont pas forcément non plus les mêmes indications. Allez, on va donc passer à la deuxième question d'auditeur. Encore un homme, c'est bien, c'est vrai qu'on a, on a plus souvent des femmes, hein, Dimi, mais là, on a beaucoup d'hommes aujourd'hui,
ouais,
c'est bien.
Bien oui.
On répond à tout le monde dans son rendez-vous, hein, pas de problème. Alors, on écoute la question donc d'Eric, 40 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai eu un bébé qui a fait deux bronchites asthmatiformes cet hiver. Et je voulais juste savoir si ça voulait dire qu'il serait asthmatique toute sa vie ou que ça pouvait disparaître en grandissant. Voilà, on se pose la question. Merci en tout cas, si vous pouvez nous aider.
Alors, une question d'actualité, Dimi, parce que donc des bronchites asthmatiformes ou autres, j'imagine qu'en consultation, vous en voyez beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une épidémie de gastro, elle est toujours présente actuellement, mais il y a des bronchites, asthmatiformes ou pas, il y a la grippe aussi, donc il y a un peu à boire et à manger en ce moment.
Super. Alors, pour répondre à la question d'Eric, on a interrogé une pneumologue. Déjà, on lui a demandé ce que voulait vraiment dire une bronchite asthmatiforme. Écoutez la réponse du professeur Camille Taillé, pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris.
Bronchite asthmatiforme, c'est un mauvais terme en fait. C'est un terme qu'on utilise pour décrire des symptômes d'un enfant qui tousse et qui siffle. Donc une bronchite asthmatiforme, ça peut être le plus souvent d'origine virale ou d'infectieuse qui va disparaître en quelques jours. La bronchite asthmatiforme, ça peut aussi être une authentique crise d'asthme. Donc ça, c'est important aussi de faire préciser par le docteur qui a soigné l'enfant, est-ce que c'était une crise d'asthme ou est-ce que c'était un élément infectieux, ça ce sera à discuter.
Alors on a compris déjà ce que ça veut dire, donc une bronchite asthmatiforme en pneumologie. Alors, est-ce qu'un enfant qui fait souvent ce type de bronchite étant tout bébé, ça veut dire forcément qu'il sera asthmatique plus tard? On écoute là aussi la réponse du professeur Taillé.
On ne parle pas d'asthme chez les enfants avant la répétition de 3 épisodes de gènes respiratoires qui sifflent. Donc il faudrait vraiment que les épisodes se répètent pour qu'on puisse vraiment parler d'une maladie asthmatique. Faire des infections respiratoires, c'est très fréquent chez les enfants, surtout en période hivernale. Ça n'a aucun critère de gravité. Donc s'il n'y a pas d'autres épisodes qui se répètent, eh ben, on considérera qu'il a fait 2 infections virales et c'est pas grave. Et c'est pas ça qui va faire qu'il va devenir asthmatique plus tard.
Bon, bah, une bonne nouvelle, une bronchite asthmatiforme, ça ne veut pas dire forcément de l'asthme plus tard. Une bronchite d'ailleurs tout court, Jimmy, ça peut se soigner aussi. Tout seul, je ne sais pas, il y a un traitement quand même.
Oui, d'ailleurs, le traitement ne repose absolument pas sur les antibiotiques, même quand ça tombe sur les bronches, même lorsqu'on crache vert, on crache sale. Ce n'est pas du tout un critère d'antibiotique.
C'est vrai, vous en aviez parlé déjà dans l'émission.
Et dans la bronchite asthmatiforme, on se focalise plus sur l'asthme que la bronchite. Donc si ça siffle, on utilise les bronchodilatateurs, la ventoline. Et puis si jamais ça surinfecte éventuellement des antibiotiques, parfois des corticoïdes. Et un enfant qui a fait une bronchite asthmatiforme n'est pas forcément asthmatique, mais effectivement, il a un terrain à en refaire. Donc à ce moment-là, on traite l'asthme plutôt que la bronchite.
Merci beaucoup, Jimmy. Voilà, alors si vous aussi, comme Eric qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions bien-être ou santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques de chocs toxiques avec les tampons et les cups utilisés par les femmes pendant leurs règles. Et puis, on accueillera aussi, bien sûr, notre invité du jour, le docteur Henri Partouche, avec qui nous allons décortiquer un problème de santé très fréquent à l'origine d'une épidémie en ce moment en France, la gastro-entérite. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Henri Partouche, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous allez nous parler de la mise au point qu'a fait cette semaine donc l'ANSES, agence sanitaire française, à propos du risque du syndrome de choc toxique lorsqu'on utilise des protections hygiéniques intimes, internes surtout, pendant les règles comme les tampons ou les cups qui sont les coupes menstruelles en fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que c'est que ce risque de choc toxique?
Alors ce syndrome de choc toxique, c'est une maladie infectieuse qui est rare, c'est une personne sur 100 000 et elle est causée par une toxine bactérienne sécrétée par un agent qu'on appelle le staphylocoque doré. Mmh. Ce staphylocoque doré, il est présent de façon naturelle dans 30 à 40% de la population à différents endroits comme la gorge, le rectum, le vagin et la peau et généralement il n'est pas dangereux. Dans certains cas, ce staphylocoque peut sécréter une toxine et cette toxine peut donner ce syndrome de choc toxique, notamment chez les femmes qui n'ont pas développé de défense immunitaire contre cette toxine. Et dans un cas sur deux, ce syndrome de choc toxique est lié à des menstruations importantes et surtout l'utilisation de tampons hygiéniques super absorbants, typiquement les cups ou les tampons. Et on sait que ces tampons, parfois, ne sont absolument pas adaptés au flux de sang qu'on peut avoir. Ils peuvent permettre la prolifération de bactéries.
Ok, et donc que dit concrètement ce rapport donc, de l'ANSES qui vient d'être publié?
Alors c'est simple, ça nous dit que dans ces essais, on a révélé la présence de substances chimiques dans les tampons et dans les coupes menstruelles, mais sans dépassement des seuils sanitaires.
D'accord.
D'autre part, on n'a pas mis de lien direct entre propriétés physico-chimiques des matériaux et risque d'augmentation du syndrome toxique, donc pas de panique. En revanche, l'agence recommande un peu plus de clarté et d'information pour justement informer pour justement que les patientes soient un peu plus informées sur les risques de syndrome liés à l'utilisation de ces coupes.
Oui, parce qu'il faut bien lire la notice, c'est écrit en tout petit, parfois on n'en a jamais entendu parler ou on en entend alors que ça fait 10 ans qu'on porte des tampons, donc c'est un peu dommage, effectivement, il faudrait que ce soit un peu plus mis en avant. Que dit l'ANSES? Elle fait des recommandations, hein, du coup?
Oui, toute simple. La première, il s'agit de vous laver les mains au savon avant d'insérer ou de retirer un tampon ou une coupe. Changez-les régulièrement, 4 à 8 heures maximum, évitez d'en utiliser la nuit car souvent on dort un peu plus que 8 heures, enfin en tout cas quand
on peut. Si on a la chance de dormir plus de 8 heures.
Donc l'utiliser simplement une partie de la journée, alterner tampons et serviettes hygiéniques. N'utilisez pas à ce moment-là la nuit quand on peut, surtout ne pas oublier d'enlever son tampon et on n'attend pas, on ne met pas un tampon de façon préventive.
Ouais, il y a des femmes qui font ça, il ne faut pas le faire vraiment.
On attend d'avoir ses règles pour les mettre. Et enfin, si on utilise des tampons, utilisez ceux qui ont un pouvoir minimum absorbant nécessaire pour répondre aux besoins. On sait que le risque de syndrome toxique, est plus élevé avec des tampons très absorbants. Dernier point, cup versus tampon, le risque de choc est strictement identique. Donc, utilisez les mêmes recommandations.
Parfait. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils précieux pour les femmes. Merci. Alors, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Henri Partouche. Il est généraliste et professeur donc de médecine générale à l'Université de Paris.
15h, 16h, Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Partouche.
Bonjour.
Alors, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Avec vous, on va parler, bon, c'est un sujet qui n'est pas glamour, mais très important, la gastro-entérite.
Oui.
En ce moment, la France vit une véritable épidémie. Toutes les régions sont touchées, il suffit de regarder les cartes d'épidémiologie qu'on reçoit tous les mercredis, nous les journalistes. C'est quelque chose de classique à cette époque de l'année ou c'est inhabituel ce qu'on vit en ce moment?
Oui, d'après le réseau Sentinelle, l'épidémie de gastro-entérite survient principalement les deux premières semaines de l'année, S1, S2. Et on est d'ailleurs actuellement en période de diminution du nombre de cas.
Mais ça, c'est une bonne nouvelle.
On a passé le pic.
D'accord, mais il y a encore toute la France très touchée quand même. Hein.
Voilà, c'est classique, il y a encore beaucoup de cas, entre 200 et 600 pour 100 000 habitants.
Ah oui, c'est beaucoup.
Donc
quand même.
C'est beaucoup, tous les ans c'est à peu près la même chose.
J'allais vous dire, c'est ce qui se passe en ce moment-là, en janvier 2020.
C'est attendu.
C'est ce qui s'est passé en janvier 2019 et ce qui se passera probablement l'année prochaine.
Voilà, c'est attendu. C'est contemporain de l'épidémie de grippe.
Jimmy ?
Et puis les gastro, on en voit aussi en été, c'est pas simplement en hiver. En hiver, effectivement, il y a l'épidémie, mais en plein mois de juillet, on peut aussi développer une gastro.
Oui, tout à fait. On peut développer une gastro d'origine virale et bactérienne et ou bactérienne. Donc c'est là qu'il faut se méfier, hein. Il y a beaucoup de voyages et ou de gastro-entérite d'origine alimentaire. Donc remettre en cause le diagnostic et la valeur prédictive positive, c'est-à-dire la probabilité du diagnostic de gastro-entérite virale épidémique est plus importante si on est en période épidémique.
En ce moment, c'est surtout viral quand même. Hein. Quand il y a la grosse épidémie, comme on la vit en hiver, en janvier, c'est parce que c'est les virus qui le provoquent, c'est
une
pas bactérien.
Actuellement, on sait qu'on est dans le pic épidémique, le diagnostic est à peu près sûr.
Hein. D'accord.
Il faut se méfier, hein. Il y a des diagnostics différentiels. C'est grippe intestinale, on appelle ça des grippes intestinales.
Oui, je mange un truc pas tout à fait frais, entre guillemets, il y a une bactérie dedans, je vais avoir deux jours de diarrhée ou un jour de diarrhée, par exemple. Ça peut être une gastro quand même, on appelle ça la gastro-entérite, il y a les symptômes, mais c'est bactérien là. C'est possible.
Alors, quand c'est bactérien, il y a d'autres signes, des signes dysentériques. Hein.
Ça veut dire quoi ça, dysentérique? Alors,
c'est-à-dire
pas de mots compliqués, attention. Hein.
Des douleurs, des glaires, du sang dans les selles.
D'accord, donc c'est un peu plus sérieux quand
même. On n'est pas dans la même temporalité. Hein, la grippe, la gastro-entérite virale épidémique, c'est 2-3 jours, ça ne dure pas longtemps.
Très bien, docteur Partouche, on ne fait que commencer cet entretien, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler de la gastro-entérite. En ce moment, une grosse épidémie touche toute la France. Vous en êtes peut-être victime en ce moment, vous qui nous écoutez. Alors restez, car on va tout vous dire. Pourquoi cette maladie est-elle aussi contagieuse? Vous verrez qu'on peut la transmettre avant même d'avoir des symptômes. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Henri Partouche, généraliste et professeur à l'Université de Paris. Alors docteur, vous nous avez dit tout à l'heure que la gastro-entérite, le plus souvent, en tout cas en ce moment, elle est virale, donc causée par un virus, même plusieurs virus d'ailleurs, qui sont particulièrement contagieux. Il n'y a pas un virus de la gastro, il y en a plusieurs, je crois.
Il y en a plusieurs. Principalement le norovirus, qui touche les adultes. Chez les enfants, dans 50% des cas, c'est du rotavirus, c'est un autre virus. Mais il existe d'autres virus à l'origine de la gastro-entérite.
Des souches, en fait, il y en a vraiment beaucoup, hein, c'est ça. Mais les principales, c'est celles que vous avez citées.
Oui, voilà.
D'accord. Par exemple, par rapport à d'autres virus, c'est vrai qu'on a déjà parlé, par exemple, de rougeole dans cette émission. On a fait une émission spéciale il n'y a pas très très longtemps. On nous a dit que la rougeole, c'était un des virus les plus contagieux qui existent sur la planète. La gastro, par rapport à la rougeole ou à la grippe, ça, c'est plus, moins contagieux?
Alors, la rougeole, c'est un virus respiratoire. Donc la contagiosité est plus importante parce qu'elle est gouttelette et on peut attraper la rougeole facilement.
Il suffit qu'en parlant, je vous envoie quelques postillons et vous attrapez la grippe ou la rougeole.
Pour la gastro-entérite, ça passe par les mains principalement. Ça peut aussi passer par les gouttelettes salivaires, hein, en parlant quelqu'un contaminé qui est asymptomatique, un tiers des...
Asymptomatique sans
symptômes.
C'est-à-dire
sans symptômes, peut transmettre la gastro-entérite en parlant...
Donc c'est quand même moins contagieux que la grippe. Hein.
Voilà, c'est moins contagieux.
Mais ce qui est embêtant, c'est que ces virus-là, ils sont coriaces, les virus de la gastro-entérite, donc rotavirus ou norovirus, parce qu'ils sont capables, je crois, de rester très longtemps sur des surfaces ou des objets, hein, c'est ça?
Dans l'environnement, bien
Combien
sûr.
De temps? Expliquez-nous ça un petit peu.
Ça peut rester jusqu'à 60 jours dans l'eau à 20 degrés, selon les données de l'ANSES. Et d'ailleurs, on retrouve du norovirus dans l'eau souillée, des eaux usées, quand il y a une mauvaise filtration. Voilà.
Et sur une poignée de porte, par exemple
voilà, donc,
combien de temps sur une poignée de porte?
Je n'ai pas les données,
non,
je ne suis pas virologue.
Il me semble que c'est une dizaine de jours au moins. Voilà.
Ouais. Et c'est ça que des fois, des patients disent « mais c'est bizarre, j'ai fait très attention, je me lave les mains plusieurs fois par jour, j'ai même les gels hydroalcooliques, mais ils oublient qu'ils ont touché la poignée de porte en allant au travail, ils oublient qu'ils ont pris la barre de métro, le bouton de l'ascenseur, tous ces virus survivent à cet endroit-là. » Et donc, on peut attraper la gastro sans connaître le coupable, parce que souvent, on veut savoir qui nous a contaminés, mais on n'a pas toujours la réponse.
D'où l'intérêt de se laver les mains très souvent. Ou d'utiliser des solutions hydroalcooliques.
On parlera des mesures de prévention un peu plus tard, Jimmy.
On est d'accord que la gastro-entérite pose problème, surtout dans des populations plus à risque. Vous et moi, si on attrape la gastro, on sera un peu incommodé, mais finalement pas trop de conséquences. C'est plus compliqué chez les enfants.
Enfin, moi, ça va, vous, je suis pas sûr que vous irez bien, mais moi, ça va.
Mais parce que le risque principal, c'est la déshydratation, non? Donc chez les tout petits, il faut être plutôt vigilant.
Oui, tout à fait. Et les enfants sont beaucoup plus à risque de déshydratation. Et on déplore 15 000 hospitalisations environ. Par an et plusieurs décès.
Des personnes
jusqu'à
fragiles.
Jusqu'à 15 décès par an liés au rotavirus.
Des donc personnes fragiles, malades aussi.
Ou prises en charge tardivement, hein, parce qu'on n'a pas. Les parents n'ont pas jugé utile d'aller à l'hôpital suffisamment tôt. Hein, et parfois, il y a des gastro-entérites à évolution catastrophique.
Donc il ne faut pas la sous-estimer quand même, cette maladie.
C'est une maladie qui peut être grave.
Et surtout que chez les enfants, ils dépendent de l'apport hydrique des parents. C'est-à-dire que nous, on a soif, on va boire, mais l'enfant, si on ne le stimule pas, qu'on ne va pas derrière lui, eh ben, il peut être un peu plus fragile que les autres.
On parlera des mesures de traitement et du risque de déshydratation un petit peu plus tard. Juste la gastro, est-ce que c'est comme d'autres maladies infectieuses? Une fois qu'on l'a eue, cet hiver, c'est bon, on est tranquille, on ne l'aura plus de l'hiver, non?
Pas tout à fait, parce qu'on peut être immunisé, bien sûr, mais il y a plusieurs souches. Et c'est comme pour la grippe, ça change. Ah. Voilà, il y a plusieurs souches de norovirus, de rotavirus. Et donc, on peut avoir plusieurs fois la gastro-entérite.
Génial, on peut être gâté avec la gastro, ça peut être un plaisir plusieurs fois par an.
Tout à fait.
C'est difficile. Et d'une année sur l'autre, si j'ai eu la gastro à rotavirus, admettons, cet hiver, est-ce que ça veut dire que l'hiver prochain, je ne l'aurai pas? J'ai un peu des anticorps quand même ou pas qui se développent?
Pas tout à fait, non. Ah. Je crois que c'est pas comme pour la vaccination, on peut refaire plusieurs fois. Une gastro-entérite.
Jimmy, il y a une étude qui a été publiée, je sais que vous avez jeté un petit coup d'œil, de chercheurs suédois, qui a montré que la sensibilité, alors je ne sais pas ce que ça vaut, on a vu ça un petit peu dans la presse cette semaine, qui a montré que la gastro, elle pouvait dépendre aussi de notre groupe sanguin, qu'on pouvait être plus ou moins protégé, je crois, si on avait un certain groupe sanguin.
Oui, apparemment, si on serait du groupe B, on serait plus protégé, soi-disant à cause d'un antigène qui serait absent. Mais attention, c'est une étude très préliminaire, les données sont très limitées, donc on ne peut pas pour l'instant porter de conclusion. Et voilà, il faut être un peu prudent, on aime bien ce genre de titre, mais pour l'instant, ne vous fiez pas à ça, vous pouvez attraper la gastro, quel que soit votre groupe.
Si vous êtes groupe A, B, vous pouvez quand même l'attraper.
Oui, A, B, O, lavez-vous les mains.
C'est ça, c'est mieux. Très bien. Plus protégé, ces gens-là, donc ça, on a dit, c'est peut-être pas encore tout à fait sûr. Juste pour qu'on comprenne bien, docteur Partouche, le virus de la gastro, ce qui le rend encore plus pernicieux, c'est qu'une fois qu'on l'a attrapé, qu'on a été contaminé, on peut même être contagieux avant même d'avoir des symptômes, hein, c'est ça?
C'est au départ de l'infection, on est déjà contagieux. Hein. C'est surtout que ça dure et que un tiers des patients, des personnes, sont asymptomatiques. Donc voilà, qui est le cas index, on ne sait pas. Quand on est en période d'épidémie, on peut être infecté par n'importe qui.
Hein. Partout, nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler gastro-entérite. Et oui, c'était pas glamour comme sujet, mais c'est très concernant. En ce moment, une grosse épidémie touche la France entière. Juste après, on vous dit tout sur comment bien la soigner, cette gastro, pour se remettre sur pied au plus vite. On parlera aussi de l'intérêt du vaccin pour prévenir cette maladie chez les plus jeunes. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Henri Partouche. Il est généraliste et professeur de médecine générale à l'Université de Paris. Alors docteur, il y a quelques minutes, vous nous avez parlé des principaux virus qui sont responsables de la gastro, donc les rotavirus et les norovirus, si je ne me trompe pas. Rotavirus chez les enfants, norovirus plutôt chez les adultes. À présent, on va passer au traitement, évidemment, parce que bon, c'est bien beau d'avoir la gastro, il y a beaucoup de gens qui l'ont en ce moment. En France, toute la France est touchée. D'abord, juste avant de parler du traitement, comment on la reconnaît, la gastro? Parce que parfois, il y a des symptômes un peu différents. Hein.
Le diagnostic, il est clinique.
C'est quoi?
On est en période épidémique. on a des violentes douleurs abdominales, des vomissements, un syndrome grippal. Hein,
donc, et ou des diarrhées, on n'est pas obligé d'avoir les deux.
De la fièvre. Et la définition de la diarrhée aiguë, selon le réseau Sentinel, c'est au moins 3 selles liquides molles par jour depuis...
Au moins 3, si on n'a voilà. qu'une fois, voilà. c'est pas la gastro, voilà. c'est un petit truc qui passe comme ça, mais ça, voilà, ça
c'est
va
la
passer.
Définition clinique de...
Après,
de
dans la vraie vie, comme on peut le voir au quotidien, il n'y a pas une gastro, mais des gastro. On a des gens qui vont avoir que de la diarrhée, très peu de douleur abdominale, d'autres vont avoir fait. Le tabou complet, fièvre, douleur abdo, diarrhée, vomissement. Parfois, on a de la fièvre, d'autres pas. Il y a des gastro-éclairs, des enfants qui vont vomir toute la nuit, puis le lendemain, tout va bien. Ils ont malgré tout eu la gastro-entérite, donc c'est vrai que c'est parfois compliqué pour les parents de faire le diagnostic.
Le mot-clé, les mots-clés, c'est bref, intense. Et pour cette épidémie, on a remarqué que les patients vomissaient beaucoup.
Hein, ouais. Il y avait une cette année, une c'est qui fait un cru qui fait vomir. Ouais,
voilà, sympa.
Très bien.
D'où la difficulté à traiter.
Bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce que pour avaler les médicaments, on en parlera juste après. Si on vomit tout le temps, c'est pas évident. Comment on fait la différence entre une indigestion et une gastro, du coup, en ce moment là?
Alors une indigestion,
en termes de
c'est...
temps, ça dure voilà. pareil ou pas?
Non, alors ça dépend de quel type d'indigestion, quel type de...
Bon, on n'a pas le temps d'entrer vraiment voilà, dans les détails, hein, mais...
Mais c'est... Oui, il n'y a pas la fièvre, il n'y a pas les courbatures...
Ah oui, il y a quand même des courbatures voilà. dans la gastro, hein, voilà. quand même aussi, un peu comme la grippe.
Grippale, hein,
et puis le fait de partager aussi un plat, vous avez mangé avec votre conjoint, votre conjointe...
Tout le monde vomit.
Tout le monde vomit 2 heures après avoir ingéré le repas. Dans un restaurant où vous n'avez pas l'habitude d'aller, on peut se dire que c'est le virus. Si vous êtes le seul à avoir les symptômes, et que le conjoint va bien alors que vous avez partagé le repas, là on peut prendre un peu plus de recul.
Et puis quand 2-3 jours après, toute la famille est touchée, là
oui,
on
sait que vous êtes le coupable et qu'il va falloir faire un peu profil
bas. On peut bien différencier une gastro-entérite en période épidémique d'une gastro qui serait liée à des aliments qui peut être toxiniques, hein, donc d'origine toxinique, liée aux toxines des bactéries ou bactériennes, hein, qui donne la diarrhée.
Alors on est évidemment très contagieux, on en a déjà parlé un petit peu quand on a la gastro-entérite, on a dit qu'on pouvait être contagieux un petit peu avant, même quand on n'a pas de symptômes, parce qu'on peut faire une gastro-entérite sans symptômes, mais pendant qu'on est malade, là c'est là qu'on est le plus contagieux, quand on a les symptômes.
Tout à fait.
Là vraiment on est très contagieux, c'est
voilà.
ça.
Et pour le norovirus, c'est au moins jusqu'à 8 jours après la fin des symptômes.
Ah oui, quand même, donc pour les adultes,
reste,
quoi. La gastro des adultes, voilà, norovirus...
On reste contagieux.
8 jours, donc pendant 8 jours, des précautions dont on va parler.
On a combattu l'infection, le corps a créé des anticorps, mais vous excrétez encore des virus, donc vous allez mieux, mais vous avez encore des petits virus, et donc vous allez contaminer les gens, et c'est souvent sur cette période qu'on contamine tout le monde, parce que quand on a la diarrhée, des vomissements, on est un peu mis en quarantaine.
Personne ne nous touche de toute façon.
Mais comme ça va mieux au bout de 48 heures, on se dit, tout va bien, mais non, vous excrétez pendant plusieurs jours ce virus, et c'est là qu'on est encore plus contagieux parce qu'on relâche un peu les attentions.
On ne fait pas des bisous à tout le monde quand on
sauf
a été malade.
Sauf les collègues que vous n'aimez pas. Ouais, non, mais non,
ça.
Je plaisante.
Ça, c'est un petit cadeau en passant. Combien de temps ça dure une bonne gastro en moyenne, le vrai temps, je veux dire, où on est malade, quoi, hein, on a des symptômes?
3 jours, 3 à 5 jours, ouais. Maxi, hein, pour la gastro-entérite virale.
C'est pas plus que ça, d'accord.
C'est vrai qu'au-delà de 5 jours, on commence à se poser des questions. On remet en cause le diagnostic en disant une diarrhée qui dure plus de 5 jours. Est-ce qu'elle serait pas d'origine bactérienne? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Parfois, c'est juste la flore digestive qui a du mal à se remettre un peu en place. Mais on sait que 5 jours, c'est le maximum qu'on accepte avant de se dire, tiens, on va peut-être faire autre chose.
D'accord. Alors, quand on a une gastro, raisonnablement, il faut se faire arrêter. Par exemple, moi, je suis adulte, j'ai la gastro demain. Vaut mieux pas que j'aille. Bon, déjà, parce que pour pas contaminer tout le monde, mais c'est raisonnable de prendre un arrêt maladie, d'accepter l'arrêt maladie du médecin. Ouais.
Et d'ailleurs, l'assurance maladie propose dans les arrêts électroniques une durée de 3-5 jours d'arrêt quand on fait un arrêt de travail. Donc c'est pré-rempli. Hein. Donc c'est proposé.
Et c'est raisonnable.
Hein. Et c'est raisonnable de manière à limiter l'épidémie.
Bon, on va passer au traitement. J'ai de la chance, j'ai 2 généralistes sur le plateau aujourd'hui, donc on a de quoi répondre à toutes les questions facilement. Comment ça se traite une gastro? Bon, on a compris les symptômes, on les connaît tous à peu près quand même, hein, on va pas se mentir. Ça dépend donc les symptômes qu'on a, on donne les médicaments en fonction. C'est quoi les grands médicaments du traitement de la gastro?
Je vais vous dire qu'il n'y a pas de médicaments. Le mot-clé, c'est réhydratation.
D'accord, mais bon, allez... Quelques médicaments quand même, peut-être non. Mon médecin est venu déjà à la maison, il m'a donné des choses. J'ai
alors
des antivomitifs.
On va citer les médicaments que les patients prennent et qu'il ne faut surtout pas prendre.
Ah bon, dites-nous surtout. Ouais.
Ou limiter, hein, ce sont les antivomitifs.
Ça sert à rien.
Qui sont des médicaments dérivés des neuroleptiques, dont les effets indésirables peuvent être graves, notamment cardiaques. Et donc, d'ailleurs, par exemple, la dompéridone, elle n'est plus indiquée chez l'enfant de moins de 12 ans, mais les autres antivomitifs, comme le Primperan, le vieux Primperan, il est déconseillé
vaut mieux laisser les gens vomir. Alors,
comment on peut lutter contre les vomissements pendant une gastro-entérite? Eh bien, en se réhydratant progressivement, avec des toutes petites quantités de solutions de réhydratation orale qui contiennent des électrolytes et qui permettent...
Ce sont des minéraux indispensables.
Qui sont indispensables et qui permettent de lutter aussi contre les vomissements. Donc, on vomit, on arrête pendant 10 minutes et on se réhydrate tous les 3-4 minutes.
Parce que c'est vrai que parfois, il y a cette cascade de vomissements. On vomit une fois parce qu'on a la gastro, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et puis il y a une cascade. On a très soif, on boit de l'eau, mais on vomit. Ben, c'est tout simple. À force de vomir, on a l'estomac qui est vide, on est à jeun. Et lorsqu'on est à jeun, on fabrique une protéine qui s'appelle les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques font vomir. Et donc, vous êtes dans une cascade. Au début, c'est la gastro. Et puis, c'est le fait d'être à jeun qui vous fait vomir. D'où l'idée de boire les boissons sucrées, les colas.
Oui,
en réalité, c'est pas
c'est
la boisson
ça,
sucrée.
Ah,
c'est le sucre qu'il contient qui peut permettre parfois de stopper cette cascade de vomissement. Et ce sucre, on les retrouve dans les solutions de réhydratation orale. Et donc, chez l'enfant, chez le tout petit, n'hésitez pas à prendre une petite pipette d'un des médicaments, du paracétamol ou autre, et vous lui donnez une petite pipette toutes les 10 à 15 minutes. Et le fait d'avoir du sucre de façon progressive, lentement, mais régulièrement,
permet... du sérum de réhydratation, enfin, un truc de réhydratation, la solution là-dedans.
Ce sont des solutions toutes prêtes à, dont la teneur en électrolytes est proche de celle du sang.
C'est ça qu'il faut donner vraiment au bébé, surtout. Bien sûr, c'est très important,
la
journée.
Ça prévient la mortalité des nourrissons. Donc, on insiste là-dessus.
Et vous insistez là-dessus parce qu'on ne le fait pas assez en France, c'est ça ?
On ne le fait pas assez.
Enfin, moi, je sais qu'on me l'a souvent prescrit, je ne l'ai jamais donné, il faut dire, mais c'est pas bien.
Il faut insister sur ces solutions de réhydratation orale.
Très bien. Et pas de, vous dites donc, pas d'antivomitif, mais alors l'autre, la poudre là, un peu dégoûtante, que, bon, le SMEC machin, donc ça, c'est bien ou pas ?
Je vais vous dire, c'est pas meilleur que placebo.
Ah hein, oui, d'accord, voilà. je me doutais que c'était pas très efficace.
Y compris pour les antivomitifs.
Ah oui.
Les études Cochrane, enfin les méta-analyses ont montré que c'était pas meilleur que placebo.
Bon, donc même pas ça non plus. Donc en fait, la réhydratation, et c'est tout. Alors, il n'y a pas de médicament vraiment contre la gastro.
La réhydratation et manger des petits gâteaux salés, des protéines. Chez les personnes âgées, dès lors qu'on ne peut pas les réhydrater de manière orale, il faut songer à faire des perfusions sous-cutanées ou hospitalisées. Parce que le risque est quand même très, très élevé d'insuffisance rénale et de décès chez les personnes âgées aussi.
Il faut faire très attention.
Et c'est vrai, vous parlez de cette poudre-là qui finalement, on pense, n'est pas très efficace. En revanche, chez l'enfant, dans la gastro-entérite aiguë virale, on sait qu'il y a un médicament qui permet de réduire le débit des sels. Et lorsqu'on réduit le débit des sels, on réduit la déshydratation. C'est le Turfan racécanotril. Celui-là, il est recommandé pour éviter justement peut-être de se déshydrater, mais en complément des solutions de réhydratation. C'est vrai qu'on veut
ça, c'est le traitement de référence, on l'aura compris, le traitement de réhydratation. Ces petites solutions, les sachets de poudre qu'on mélange avec de l'eau, en fait, c'est ça.
Oui, avec et sans ordonnance, c'est remboursé lorsqu'on a une ordonnance.
Il faut toujours en avoir chez soi.
Et parfois, il a un goût sucré-salé que les enfants n'aiment pas.
Moi, mes enfants n'ont jamais aimé.
Après un an, c'est compliqué, mais parfois, on peut le mettre au frigo quand c'est frais, c'est un peu meilleur. Mettez un peu de sucre dedans ou un petit sirop, histoire de casser le goût, parce que je vous invite à goûter les médicaments. Moi, je m'amuse à faire ça. Je goûte les médicaments en me disant quel goût ça va avoir. Ça permet de comprendre pourquoi les enfants n'en veulent pas. Vous allez voir, c'est pas bon. C'est sucré,
oui, j'allais goûter.
Cacher le goût au frais, un peu de sucre, c'est mieux que rien. Ou donner les boissons comme le cola, ça c'est absolument pas indiqué.
Valider, c'est pas mal le petit conseil de mettre un petit peu de sucre dedans.
Alors,
ça peut aider à faire passer
un peu la teneur en électrolytes.
Si l'enfant est réfractaire, on se dit bon, ce sera peut-être.
Très bien.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on mange quand on a une gastro? Bon, déjà si on arrive à manger, moi je sais qu'on m'a toujours conseillé les carottes, le riz, c'est ça, les bananes. Enfin, si on arrive à manger, c'est ça les aliments. Ça, je veux dire, ça a une vertu thérapeutique de manger ça ou? Bon, en gros, on attend qu'on n'a pas faim, on ne mange pas, puis on remangera plus tard.
Alors, je vais vous donner des conseils de bon sens. En fait, il faut donner des choses que le patient aime, habituellement, et froid. Hein, parce que quand c'est chaud, ça donne des nausées, en fait.
Il y a plus d'odeur.
Ça donne des nausées. Donc, des aliments froids dont le patient a l'habitude.
Et du riz, on s'en fiche, en fait, de manger du riz et des carottes. C'est pas ça, c'est pas bon, ces aliments-là, si, quand même. On a tendance à nous conseiller ça.
Ce sont les vieilles recettes de grand-mère.
Pourquoi pas ?
Après, le riz, ça peut avoir une vraie vertu dans le sens où, en fait, le riz est digéré au niveau de l'intestin. Et quand il arrive au côlon, il est déjà digéré et il laisse votre côlon au
repos.
Tranquille,
en fait.
Donc, en fait, vous allez avoir moins de douleurs abdominales si vous mangez un peu de riz que si, effectivement, vous y allez avec votre yaourt. Là, c'est sûr qu'on a envie de manger des yaourts en disant il y a plein de probiotiques, ça va être super. Mais non, le yaourt, quand on a la gastro, égale colique, douleur abdominale et on reste un peu.
C'est vrai, mais sur le plan factuel, c'est-à-dire que les essais ont montré qu'il n'y avait pas de différence. On peut donner ce qu'on veut.
Dernier mot, parce qu'il y a un vaccin quand même contre la gastro. Alors, il est surtout pour les petits, vous allez nous le dire. Ce vaccin, on le fait. Enfin, il est recommandé à quel âge, pour qui, comment? C'est pas un vaccin injectable, je crois.
Il y a deux vaccins qui sont le Rotarix et le Rotatec, qui ne sont pas recommandés, qui ne sont pas au calendrier vaccinal, donc qui ne sont pas recommandés en routine.
C'est pas une piqûre, hein?
Si, ce sont des
vaccins buvables,
en deux ou trois doses, à partir de 6 semaines jusqu'à 32 semaines.
Pourquoi c'est pour les petits et pas pour les grands ?
Alors, ce sont des vaccins contre le rotavirus.
Ah oui.
Et donc, ça prévient la gastroentérite aiguë du nourrisson.
C'est pas un vaccin qui a beaucoup de succès, je crois. On n'en fait pas beaucoup en France. Hein. C'est pas...
Il n'est pas recommandé.
Parce qu'il n'est pas recommandé, tout simplement. Mais il y a aussi un...
Il est recommandé en Europe, dans de nombreux pays européens. Alors, c'est un vaccin qui demande une surveillance dans le mois qui suit la vaccination, en raison d'un effet indésirable rare.
Mais grave.
Mais grave, qui est l'invagination.
Juste quelques mots, l'invagination, c'est quoi ?
C'est une invagination de l'intestin sur lui-même.
Il rentre, c'est comme un accordéon, un peu, ça fait non pas un accordéon, mais ça rentre l'un dans l'autre.
Et qui peut être facilement traité par un lavement, donc par des radiologues.
Mais il faut surveiller, parce qu'après ce vaccin, ça peut arriver.
Alors, ce sont des enfants qui, dans le mois qui suit la vaccination, présentent des cris, des douleurs abdominales, qui ne mangent pas, et donc il faut être vigilant.
Jimmy, vous le prescrivez, vous, ce vaccin ?
Alors, on informe les parents, on leur propose, et ensuite on leur explique que ça évite certaines gastro-entérites graves qui vont se faire hospitaliser. Ça ne protège pas de toutes les gastro, ils auront peut-être la gastro, mais peut-être qu'ils seront un peu moins hospitalisés, donc on peut le proposer, mais encore une fois, on a beaucoup de travail à faire sur les autres virus, et du coup, il faut être honnête, celui-là passe un peu au second plan.
D'accord. Donc, de toute façon, le message principal pour la gastro, surtout pour les enfants, c'est la réhydratation. Ça reste le mot de la fin, c'est ça ?
Tout à fait. Solution de réhydratation orale.
Merci
beaucoup.
Il y a
de nombreuses spécialités.
Merci beaucoup, docteur Partouche, d'être venu sur notre plateau nous en dire plus sur la gastro-entérite. C'est vrai qu'on l'a tous déjà eu au moins une fois dans sa vie, mais on ne sait pas toujours tellement plus. Grâce à vous, on a appris plein de choses. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cosmétiques divers, sticks pour les lèvres, crème pour les mains. Ces produits sont nombreux, on en trouve partout, contre les gerçures liées au froid par exemple. Mais que contiennent-ils vraiment ? On va en parler, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des cosmétiques divers. Justement, vous, utilisez-vous des sticks à lèvres pour éviter qu'elles soient gercées, des crèmes pour les mains ? Les trouvez-vous efficaces ? Faites-vous attention à ce que ces produits contiennent vraiment à l'intérieur ? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Cosmétiques divers.
Cosmétiques divers, c'est-à-dire divers D'H ou D-I-V-E-R.
Il faut mettre du baume à lèvres, surtout l'hiver, parce que sinon ça fait des gerçures.
J'hydrate ma peau parce qu'elle est sèche au niveau des mains, des coudes, des genoux. Voilà, c'est les extrémités en général, les pieds. L'hiver, on a plus la peau sèche que l'été.
C'est quoi la différence avec les autres saisons au final ?
Le froid, ça assèche la peau. Les mains aussi, oui, parce que sinon vous risquez d'avoir des gerçures aussi. Moi, j'en mets tous les jours.
Le froid assèche la peau et contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Fond de teint sûrement plus clair aussi.
C'est vrai que je mets un peu plus de crème en sortant de la douche, histoire d'hydrater parce que ça se voit que c'est un peu plus sec.
Alors, il fait froid, l'air est sec, parfois aussi ça fragilise beaucoup notre peau en hiver. On en a déjà parlé dans cette émission avec des dermatologues qui viennent régulièrement sur ce plateau. Le froid, c'est l'ennemi de la peau. Alors peut-être que Jimmy, vous qui êtes très coquin...
Oui, vous ne dites pas coquin, attention, j'ai entendu ce lapsus.
Coquin, en tout cas je voulais dire. Vous avez recours à ces produits-là pour vos petites mains, pour qu'elles soient pas sèches, vos lèvres surtout, qu'elles soient douces. Jimmy, donc pour parler de ce sujet, bien que vous soyez un pro parce que vous les utilisez, on a quand même été regarder quelque part où c'était plus sérieux l'enquête passionnante de 60 millions de consommateurs, le numéro de janvier qui est donc actuellement en kiosque. Ils ont analysé ces produits. Qu'est-ce qu'ils ont regardé précisément, Jimmy ?
Alors, pour nous aider à choisir les produits les plus efficaces et les plus sûrs, 60 millions a testé 10 crèmes, 2 masques hydratants pour les mains et 22 baumes à lèvres. Ils ont choisi des marques références vendues en parapharmacie, mais aussi des marques de distributeurs et autres, à la fois en cosmétiques conventionnels, mais aussi des produits bio.
Mais oui.
Tous ont été évalués en laboratoire pour regarder d'une part leur efficacité en termes d'hydratation, et puis évidemment, ils ont passé à la loupe leur composition.
Oui, ça c'est effectivement, ils font régulièrement ce genre de banc d'essai. Alors qu'est-ce qui montre les résultats de cette enquête du coup, Jimmy ?
Alors tout d'abord, le test a consisté en faisant des tests d'hydratation sur des demi-jambes de 20 volontaires pour voir leur performance. Ensuite, ils ont recherché des substances indésirables comme des allergènes ou encore des perturbateurs endocriniens.
Très bien. Et alors, il ressort quoi en termes d'hydratation, par exemple ?
Alors, on ne va pas vous donner les marques précisément. On vous renvoie vers l'enquête passionnante du magazine 60 millions de consommateurs. Mais en gros, dans cette étude, on voit que les crèmes de marque distributeurs, donc les moins chères, sont loin d'être les moins efficaces en termes d'hydratation.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas besoin de mettre du fric. Ça marche.
Et elles font parfois même mieux que d'autres marques de grands leaders du marché, dont soi-disant il s'en vendrait une toutes les 3 secondes dans le monde.
Oui, comme quoi, effectivement, pas besoin de se ruiner pour être bien hydraté en hiver. Alors, niveau composition, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse particulièrement dans cette émission, nous on aime bien parler de santé, de ce qui vous fait du bien. Est-ce que ces produits contiennent des choses qui ne vont pas nous faire plaisir du tout ?
Alors, sans surprise, les références bio-naturelles sont globalement plus vertueuses que les conventionnelles.
D'accord.
Mais elles contiennent néanmoins quelques allergènes, voire un peu plus. Par contre, elles ne sont pas d'irritants. Les fabricants, eux, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ces remarques et disent que c'est vraiment à des doses infinitésimales, donc imperceptibles, et qu'il faudrait peut-être faire un effort, 60 millions de consommateurs disent,
oui,
sur le
demande
fait de,
aux industriels de
devoir
faire
de transparence
ça.
Pour que celles-ci soient indiquées sur les emballages, car pour l'instant, elles n'y sont pas. Bonne nouvelle, aucun perturbateur endocrinien. Encore heureux, c'est interdit.
D'accord, les perturbateurs endocriniens avérés, parce que par contre, il y en a encore peut-être des produits dont on n'est pas sûr, mais qui seraient potentiellement des perturbateurs endocriniens. Pour ce qui est des sticks à lèvres, là on a parlé des crèmes hydratantes, les sticks à lèvres, un petit mot là-dessus quand même pour terminer, Jimmy ?
Oui, pour avoir le plus d'informations, encore une fois, retournez voir cette enquête qui est vraiment intéressante dans 60 millions de consommateurs. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que parmi les 22 soins pour les lèvres testés, moins de la moitié sont véritablement satisfaisants, offrant à la fois une bonne performance d'hydratation et une composition rassurante. Pour les autres, la présence notamment d'huile minérale semble un peu inquiétante. Même si leur impact sur la santé n'est pas encore connu, on sait qu'ils sont susceptibles d'être absorbés dans le sang, par exemple, et s'accumulent au niveau des tissus. Donc à ce stade, c'est quand même mieux d'éviter d'y être exposé, si on peut l'éviter.
D'accord, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. Pour ceux qui veulent évidemment en savoir plus, avoir la marque des produits les plus vertueux, bien sûr, on retrouve donc l'intégralité de cette enquête dans le numéro de janvier de 60 millions de consommateurs.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de l'orgasme féminin, clitoridien ou vaginal. Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Catherine va nous expliquer tout ça.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et nous arrivons donc à la dernière séquence de cette émission, c'est la chronique sexo. Et nous sommes donc rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Coralie. Je vous lis la question. Je suis clitoridienne comme femme, du coup, toutes les positions ne me donnent pas de vrais orgasmes, du coup, ma question, c'est comment varier les positions sans que cela soit au détriment de mon plaisir. Alors Catherine, avant de répondre à la question de Coralie, un petit rappel, ça signifie quoi être clitoridienne ?
Clitoridienne, c'est avoir du plaisir par le biais de l'organe clitoris. Donc évidemment, à une certaine époque, on faisait une scission entre clitoridienne et vaginale.
Ah oui, on dit il y a un orgasme clitoridien, un orgasme vaginal.
Donc
ouais.
L'un qui venait du coup par une stimulation extérieure du gland du clitoris.
Il y en a un qui s'est fait la malle parce que vous dites.
Parce qu'entre temps, on s'est rendu compte que le clitoris, on ne parle que du clitoris quand on parle du gland, alors que le clitoris a un corps, comme le pénis a un gland et a un corps, et que ce corps, qui se fait en deux racines en quelque sorte, qui entoure le vagin, eh bien, est stimulé par voie vaginale. Donc difficile
donc
de
c'est
définir.
C'est toujours le clitoris en fait.
Alors c'est pas. Difficile de définir à partir de quand commence l'un et démarre l'autre, et si l'un n'est pas impliqué dans l'autre, en tout cas plus personne ne se risque à cette scission.
Jimmy ?
Et comment expliquer lorsqu'elle dit que toutes les positions ne lui donnent pas de véritable orgasme ? Comment c'est possible ?
Eh bien parce que dans la mesure où une femme investit plutôt son clitoris, et cette fois-ci nous parlons du gland du clitoris, là évidemment comme il y a un influx nerveux important, qu'il peut être d'ailleurs très vite excitable, voire désagréablement excité, eh bien quand il y a une pénétration vaginale, il y a moins de terminaisons nerveuses, donc de fait il y a une plus grande difficulté pour certaines femmes à trouver du plaisir, et du coup elles ont se sont dit qu'il n'y avait rien qui s'y passait. Donc c'est un silence, une sorte de bouche béante qui ne ressent pas grand-chose, parce qu'elles ne l'investissent pas, parce qu'elles n'érotisent pas cette zone-là, pour X raisons, parfois parce que c'est justement, elles ont une idée de vide, elles ont une idée de vide abyssal, comme parfois c'est aussi la peur, c'est trop lié à l'idée de leur intérieur, de leur utérus, etc. Et elles préfèrent investir quelque chose qui a plus...
Qui est extérieur,
qui est plus en corrélation avec une idée d'un pénis, en quelque sorte. C'est pour ça que d'ailleurs, nombre de psys avaient un peu boudé l'orgasme clitoridien, le décrétant enfantin et de type masculin.
Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller du coup à Coralie, puisqu'elle dit qu'elle a pas mal de positions qui lui procurent finalement pas de vrai orgasme. Quelles sont les positions, puisqu'elle est clitoridienne, même si ça n'existe pas vraiment aujourd'hui ou c'est remis en question, c'est quoi les meilleures positions pour elle, puisqu'elle, apparemment, ça se passe à l'extérieur?
Eh bien, toutes les positions où, même s'il y a une pénétration, elle va pouvoir se frotter. Là, principalement celles où les partenaires sont évidemment face à face. Donc, la position de Vénus ou la position d'Andromaque, c'est-à-dire la position où la femme est sur l'homme, il lui suffit de se pencher. Elle est assise sur l'homme, mais il suffit qu'elle se penche pour que, par les mouvements de va-et-vient, elle frotte son clitoris, donc là, elle le stimule, ou la position du missionnaire, à la condition, bien sûr, que l'homme se frotte également pour stimuler ce clitoris. Là, c'est si, c'est sans les mains. Après, avec les mains, toutes les positions sont possibles. On peut évidemment stimuler tout le corps et l'électriser
dans n'importe quelle position.
Jimmy ?
Et puis, vous le dites souvent, on peut ne pas avoir d'orgasme, mais du plaisir, donc pas d'obsession particulière à vouloir l'orgasme à chaque rapport.
Oui, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas l'obtenir, bien évidemment, à partir du moment où on est, c'est un petit peu comme si on faisait passer un premier plat, un deuxième plat, un troisième plat, il ne nous intéresse pas parce que ce qu'on veut, c'est le dessert. Mais finalement, on ne sait même pas s'il y a un dessert. Donc, prenant chaque chose à sa mesure, chaque chose est une opportunité de douceur, puis de plaisir, puis de plaisir grandissant. Et plus on s'adonne à ce plaisir,
plus on mange de dessert.
Plus il monte, et plus le dessert, si ce n'était même qu'une toute petite bouchée, c'est juste la cerise sur le gâteau.
Et elle peut y travailler quand même à aussi trouver du plaisir dans des positions où ça s'apprend, ça peut changer, c'est ça?
Oui, alors encore une fois, on y travaille, mais pas avec une obsession de travail, parce que sinon, encore une fois,
on explore plutôt.
Voilà, on s'amuse, on joue avec soi, on bouge dans un sens, dans un autre, on se trémousse, on s'évalue l'un l'autre différemment, on change le rapport à l'autre, même la façon qu'on a de toucher l'autre, etc. Et du coup, ça change nos propres fantasmatiques et du coup ça amène évidemment une excitation qui peut
enflammer
le corps, absolument.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous.
Mélanie Gomez sur Europe 1.